Si on vous dit musique contemporaine, vous pensez peut-être à lui.
Pierre Boulez.
Pierre Boulez.
Pierre Boulez.
Pierre Boulez.
Oui. Pierre Boulez.
Pierre Boulez. Un musicien incontournable de la culture française du XXe siècle, à l'origine de tout un tas d'institutions musicales encore existantes aujourd'hui. Mais aussi un personnage décrié, radical dans ses idées, qui a bouleversé la musique de son temps.
Bonjour et bienvenue dans ce 5e volume de Passy Classique sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, j'ai souhaité rendre hommage à une immense figure de la musique en France au XXe siècle, Pierre Boulez. Il y a 10 ans pile, le 5 janvier 2016, il mourait chez lui dans sa grande maison d'architecte à Baden-Baden, en Allemagne. Comme dit cette pastille de France Musique datée de l'année dernière, 2025, pour le centenaire de sa naissance, Pierre Boulez est aussi à l'instigation de nombreuses institutions musicales telles la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris, l'IRCAM à côté du Centre Beaubourg, ou la création d'un ensemble instrumental entièrement dédié à la création et la diffusion de la musique strictement contemporaine, l'ensemble intercontemporain. Ici, comme toujours dans Passy Classique, on va écouter beaucoup de musique.
Pierre Boulez est un compositeur d'abord, mais aussi un chef d'orchestre, un théoricien, un homme d'institution. On peut dire que ça a été tout simplement l'un des plus grands musiciens français du XXe siècle, si ce n'est le plus important.
Né en 1925, le jeune Pierre Boulez est un matheux qui se destine un temps aux études scientifiques, avant de changer de direction à 19 ans pour rejoindre le Conservatoire de Paris. C'est là qu'il apprend auprès des grands de son époque, dont Olivier Messiaen et René Leibovitz.
La voix de Pierre Boulez.
Si vous donnez même une partition que vous estimez très intéressante et très belle, et qu'elle est mal jouée parce que les circonstances n'y sont pas prêtées, je trouve que c'est lui faire du tort à ce moment-là.
Et son interprétation des fêtes issues de Nocturnes de Debussy, ici avec l'Orchestre de Cleveland, enregistrée en 1995.
Thank you.
À seulement 21 ans, Pierre Boulez devient directeur de la musique de scène du théâtre du Petit Marigny.
Et ceci nous est raconté par l'autre co-directeur que l'on connaît tous puisqu'il s'agit de Maurice Jarre, compositeur aux 5 Oscars pour les musiques de films tels que Laurence d'Arabie, Docteur Jivago ou Je cherche des poètes disparus. Extrait non daté issu d'un podcast de la SACEM.
Un jour, Ginette me dit, voilà, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud viennent de fonder leur nouvelle compagnie de théâtre, la compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault. Et Jean-Louis Barrault, qui est metteur en scène, donc, voudrait avoir 2 musiciens qui puissent jouer la partie de musique de scène. Et comme Jean-Louis Barrault est assez avant-gardiste, si on peut dire, il voudrait avoir un jeune percussionniste et puis d'avoir cet instrument Ronde Martenot tous les soirs pour jouer cette musique de scène. Et elle m'a présenté donc à Jean-Louis Barrault et il m'a dit, voilà, ben je vous engage au mois, donc tous les soirs, avec un autre musicien. Et l'autre musicien, c'était Pierre Boulez. Et là, on est resté avec Pierre 4 ans dans la compagnie Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, pendant toutes les représentations, c'est-à-dire qu'on jouait la musique de scène et qui était transcrite ou qui était réarrangée pour 2 instrumentistes par des musiciens comme Arthur Honegger ou Georges Auric, etc. Et donc, j'ai partagé pendant 4 ans, tous les soirs, la présence de Pierre Boulez, que j'ai trouvé un homme extraordinaire, qui était doué d'une façon extraordinaire, non seulement pour la musique, mais en tant qu'un homme qui avait une culture non seulement musicale, mais générale, aussi bien mathématique que littéraire. Et c'était un plaisir, tous les soirs, d'être avec lui et de travailler, en plus de ça, de gagner notre vie. C'était pas des cachets très très riches, mais ça nous permettait de vivre et de travailler à quelque chose qu'on aimait beaucoup, la musique. Et alors, avec Pierre, j'ai découvert beaucoup de choses. Il m'a ouvert l'esprit avec toute la culture musicale de cette époque. Il était à ce moment-là très dodécaphonique, c'est-à-dire qu'il était très influencé par Schoenberg, Bergbeben, etc. Et là, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Et on est restés très amis, bien que plus tard, ne faisant pas du tout la même musique. Moi, j'ai après les expériences de Jean-Louis Barrault et de Jean Villard, je me suis dirigé sur le cinéma et lui est devenu un énorme chef d'orchestre, fantastique.
Et donc, un lien avec nos Panthéons décousus consacrés à Jacques Prévert. Boulez a donc mis en avant la musique de son temps, pas seulement, nous le verrons. Parmi les compositeurs favoris, Edgar Varèse. Bourguignon d'origine italienne, il vécut près de la moitié de sa vie aux États-Unis. L'une de ses très rares œuvres et l'une de ses premières, Dionysation, est composée uniquement pour percussion. À ce titre, c'est quasiment la première dans l'histoire de la musique occidentale savante. Ici, Pierre Boulez dirigeant l'ensemble intercontemporain en concert à l'Opéra de Francfort en 91.
Thank you. Boulez, le chef aux mains nues. Il ne dirige pas, il sculpte la musique. Pour interpréter les œuvres contemporaines et les siennes en particulier, il a inventé un vocabulaire, une grammaire du geste.
Dans mes jeunes années, je le trouvais très sémaphore dans sa gestique. Impossible d'être plus clair que Boulez. Avec lui, tout musicien s'y retrouve. Bon, ok, tous les morceaux ne sont pas aisés à suivre, surtout les siens. Encore moins à diriger. Mais ça se travaille. Et Boulez était un excellent pédagogue. De nombreuses vidéos où il parle sont tout à fait accessibles. Ou, comme ici, au Festival d'Aix en juillet 2000, filmé par France 2.
And sometimes you say, oh, tempo one comes back, so I will be quick. Yeah, to, 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 and then it's too quick.
Voilà. Ils connaissent très bien la partition, ils ont été très bien préparés, mais évidemment, ils n'ont jamais dirigé cette œuvre, et donc ça leur pose des problèmes, comme vous avez pu voir. Ça leur pose des problèmes qui sont différents de ceux qu'ils ont appris, qui sont autres, mais s'ils n'étaient pas des jeunes professionnels, ils n'auraient jamais pu maîtriser même ce qu'ils maîtrisent actuellement.
La partition d'éclats multiples, composée par Boulez, est particulièrement ardue. Et l'on peut s'étonner que de midi à 13h, chaque jour, le public vienne assister en nombre à la classe du maître. Quelques mots d'explication et la répétition commence. Les spectateurs, souvent très initiés, ont une qualité de regard et d'écoute exceptionnelle. Certains suivent l'œuvre sur la partition. Pour la plupart d'entre eux, c'est un enchantement dont ils n'hésitent pas à nous parler.
Il est un magicien, oui. En fait, un jour, il a dit de la musique que c'était de la magie.
Extrait d'éclat pour 15 instruments daté du milieu des années 60 par l'ensemble intercontemporain. Si vous le pouvez, fermez les yeux.
Thank you.
l'immense Daniel Barenboim en 2014, interviewé pour la Philharmonie de Paris.
Pierre Boulez est une personnalité la plus importante du dernier demi-siècle, de tout point de vue. Sa musique, ce qu'il a fait comme chef d'orchestre, comment il a changé la vie musicale, il a ouvert une grande partie du répertoire du XXe siècle, un public qui n'était jamais. Même moi, je dois dire, je lui serai toujours très reconnaissant, parce que moi, j'ai commencé à étudier la musique, j'avais 5 ans, donc en 1947. En 1947, la musique contemporaine, c'était Bartók qui venait de mourir en 1945, Stravinsky qui vivait encore, et les soviétiques, Prokofiev et Shostakovich. La deuxième école viennoise n'était pas pour une éducation générale, elle n'existait pas pour les concerts normaux, elle existait dans des ghettos faits pour ça, Donau, Eschingen et d'autres. Et c'est grâce à Boulez que tout ça est venu dans une programmation normale. Donc, à part le fait qu'il est un très grand compositeur, il faut lui être reconnaissant qu'il a ouvert les esprits, il a changé la programmation de la vie musicale.
Et donc, l'un des répertoires de prédilection de Boulez, c'est la seconde école de Vienne, avec Schönberg, Berg et Webern, et donc le tout début du XXe siècle, en gros 1890-1930-40, essentiellement. Je nous ai choisi la troisième des cinq pièces opus 16 de Schönberg, dite Farben, couleur au pluriel, ici par l'Orchestre symphonique de la BBC, enregistré en 78. Dans les années 50-60, Betsy Jolas était alors une jeune femme compositeur. Ici interviewée pour la Philharmonie de Paris en juin 2015.
C'était vraiment vers le domaine musical que je voulais aller, que c'était là qu'on pouvait espérer être bien joué. Il y avait une sorte de laisser-aller, en général, qui me désolait. Et puis surtout, nous étions, tout le groupe de la classe de Darius Milhaud, nous étions un peu considérés comme des dangereux révolutionnaires, et on appelait la musique que nous écrivions cette musique-là. Ça s'appelait cette musique-là. Et oh, tu écris cette musique-là. Ouais, voilà. Et donc, on n'était pas très bien vus, par exemple, à la radio. Hein. Mais c'était quand même Pierre qui dirigeait tout, et surtout qui leur faisait connaître cette musique, qui donnait un sens à cette musique, qui leur apprenait à jouer correctement, avec son oreille infaillible. C'était très très important pour ça.
Pour sa place centrale, voire omnipotente, très politique au sens premier du terme, Pierre Boulez fut décrié, considéré comme clivant, élitiste ou dénigrant certains mondes musicaux. Bien sûr, c'est nettement plus complexe et nuancé, et ce n'est pas ici qu'on tranchera. Le 12 février 2008, Boulez dirige l'Orchestre de Paris lors d'un concert Stravinsky sous la pyramide du Louvre. Ici, la pièce, courte, est titrée « Feu d'artifice ».
Thank you.
crois la première fois que je lui ai montré, je mourais de timidité. J'étais extrêmement timide à l'époque. Et je n'étais pas sûr de moi. La première fois que je lui ai montré mon œuvre, je crois qu'il n'a rien aimé, vraiment. Mais il a été adorable. Il m'a consacré 3 heures. Il a tout regardé et surtout il ne m'a pas considéré comme une femme compositeur. À l'époque, c'était très important. Ça m'a donné, parce que les femmes compositeurs, je n'en voyais aucune qui pouvait me servir de modèle. Hein. Et ça a été un de mes problèmes à l'époque. Et il m'a traité comme un compositeur. Un compositeur d'ailleurs, on ne disait pas compositrice à l'époque. Et ça a été très important. Il m'a traité en professionnel. Je le fais rire souvent, hein, parce que je lui dis des choses que j'aurais jamais osé lui dire dans le temps. Comme je lui ai dit l'autre jour que j'étais à moitié américaine, donc que j'avais mauvais goût. Hein. Ça l'a fait rire. Bon.
Thank you.
Autre compositeur où Boulez donna de très bonnes versions, Gustav Mahler. C'était ici Urlicht au Röschenrot, le lead inclus dans sa deuxième symphonie, dite Résurrection. Michel de Jung, soprane, était ici avec les Wiener Philharmoniker, le même orchestre qui, d'un, joue au premier de l'an en Mondiovision, et de deux, fut l'orchestre que dirigea lui-même Gustav Mahler. C'est dire si c'est beau, car c'est bien joué, tant les musiciens connaissent intimement l'œuvre. Pour clore notre Passy Classique consacré à Pierre Boulez, que vous pouvez retrouver en podcast, le Passy Classique par Pierre Boulez, je nous ai choisi le final du concerto pour orchestre de Bartok, autre compositeur fétiche de Boulez. Je l'avais vu à Paris il y a plus de 30 ans, magistral, un régal. C'est ici une version de référence, Boulez toujours à main nue, ce qui n'est pas un exploit entre nous, dirige l'un des meilleurs orchestres au monde, le Chicago Symphony Orchestra, qui eut de nombreux musiciens hongrois dans ses rangs, le tout dans un Everest de la musique du XXe siècle. Tout ça n'est pas si classique, alors bonne semaine à toutes et tous et restez, vous êtes bien sur Radio Alpin.